Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis sur Graphite Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver pour ce samedi. Nous allons feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique afin de nous intéresser à ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier sur différents sujets. Vous nous suivez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, bien évidemment, que ce soit en direct ou en différé. Je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts des émissions de Graphite sur ce site internet graphite.net et vous suivez bien évidemment toute l'actualité de Graphite sur les réseaux sociaux, Facebook bien sûr et Instagram. Bien évidemment, nous sommes donc aujourd'hui le 28 janvier au niveau de l'éphéméride. De ce 28 janvier en 1887, c'est le début de la construction de la tour Eiffel, prévue pour être une simple attraction éphémère démontable d'une exposition universelle qui devait avoir lieu à Paris. Elle est restée bien évidemment, mais donc c'était le démarrage le 28 janvier 1887. En 1986, un 28 janvier, c'est l'accident de la navette spatiale Challenger qui donc s'est désintégré 73 secondes après son décollage avec son équipage de 7 astronautes, donc le 28 janvier 1986. Et on avait appris, donc je crois que c'est la semaine dernière où j'évoquais cela dans un article de Science et Avenir, qu'on avait récupéré des morceaux de cette navette Challenger il y a quelques semaines au large du triangle des Bermudes. Donc on avait récupéré voilà, un morceau de cette navette. On s'en souvient, hein, le 28 janvier 1986, pour ceux qui avaient connu cette époque de cet accident de Challenger. Naissance le 28 janvier 1611 de Johannes Hevelius. C'est un astronome qui, dans l'histoire de sa discipline, se place entre Galilée et Newton. Il est auteur d'une topographie de la Lune, il est découvreur de comètes, il est compilateur d'un catalogue d'étoiles et en plus de l'étude d'autres objets célestes, il construit des instruments scientifiques et il entretient une large correspondance avec les savants de l'époque, Johannes Hevelius. Ce nom n'est pas resté aussi célèbre que Galilée et Newton, mais il n'empêche que voilà, c'était un très grand astronome qui est donc né un 28 janvier 1611 et qui est mort aussi un 28 janvier, décidément, ce n'était pas sa journée. Il est décédé le 28 janvier 1687. Décédé également un 28 janvier, Émile Clapeyron, qui est un ingénieur et physicien français. Il est mort en 1864. Il se passionne pour les chemins de fer, notamment comme professeur à l'école des mines de Saint-Étienne. Il conçoit l'idée, il rédige le projet du chemin de fer de Paris à Saint-Germain en 1836. Émile Clapeyron. Au niveau de l'actualité, j'ai l'impression que je vais avoir un chat dans la gorge que je vais traîner pendant toute l'émission. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais c'est le temps qui ne me convient pas, et puis c'est tout. Cette annonce assez alarmiste concernant les habitations côtières françaises. Jusqu'à maintenant, les futurs acheteurs d'une habitation située sur le littoral n'étaient pas obligatoirement informés sur les risques futurs d'inondation et de submersion en lien avec le changement climatique, car si un bien n'était pas classé en zone inondable au moment de l'achat, eh bien celui-ci pouvait tout de même être menacé par la montée des eaux à l'horizon 2050 ou 2100. Eh bien, depuis une vingtaine d'années, les agents immobiliers comme les particuliers doivent désormais déclarer dès la première visite d'éventuels acheteurs les risques futurs qui menacent le bien en lien avec le réchauffement climatique. L'élévation du niveau de la mer dépend de plusieurs mécanismes, dont l'érosion de la calotte glaciaire. Et donc le cabinet Calendar Climate Intelligence a publié une étude immobilier et climat et il montre donc le marché français face à l'élévation du niveau de la mer. Et donc ça permet d'identifier les zones à risque en France au cours des prochaines décennies. Dans son sixième rapport d'évaluation, le GIEC estime que le niveau moyen de la mer a augmenté de 20 cm entre 1901 et 2018 et que son rythme d'élévation va continuer à s'accélérer. Cette question liée à l'augmentation future du niveau de la mer va donc devenir centrale dans la décision d'achat d'un bien, évidemment. Alors, Calendars a analysé plus de 16 millions de transactions immobilières conclues entre 2016 et 2021. Et parmi ces transactions, il y avait presque 20 000 biens qui vont devenir inondables avant 2050, selon l'étude qui a pris en compte les différents scénarios climatiques du GIEC. Un bien est considéré comme inondable si la probabilité qu'il soit inondé est supérieure ou égale à 10% par an. Et donc, dans le cas du scénario du réchauffement le plus pessimiste, il y a jusqu'à 1500 biens qui pourraient devenir inondables en 2100. Et en fonction des scénarios, de 6000 à 9000 biens immobiliers vendus au cours des 5 dernières années vont devenir submersibles à marée haute à l'horizon 2050. 2050, c'est demain en fait. Un bien est considéré comme submersible si son élévation est inférieure au niveau moyen de la mer. Tout ça est bien sûr additionné à la hauteur moyenne des marées. Alors, quelles sont les zones les plus touchées par ce phénomène ? Eh bien, c'est essentiellement l'embouchure de la Seine, la côte atlantique et dans une moindre mesure la côte méditerranéenne, c'est ce que précise l'étude. Alors, parmi les grandes villes les plus à risque, entre 2020 et 2050, on trouve Le Havre, qui est de loin la grande ville la plus menacée. Il y a Caen, Bordeaux, Arcachon, Deauville, Bayonne, Toulon et Sète. Et donc, dans cette étude, au Havre, par exemple, presque 4% des biens vendus ces 5 dernières années vont devenir inondables avant 2050, selon donc le cabinet Calendar. Dans le scénario le plus pessimiste, près d'une propriété côtière sur 10 pourrait devenir inondable en 2100, c'est ce que précise l'étude. Donc il y a véritablement une alerte à prendre en considération, bien sûr. Et là encore, c'est une conséquence du réchauffement climatique qu'on évoque très souvent dans cette émission, bien sûr. On écoute un peu de musique et on va continuer à parler d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite.
How it again through? When will
Hayden Army, c'était Gagel sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et au niveau de l'actualité scientifique, il y a un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui reflète avec précision le risque de déclin cognitif lié aux maladies neurodégénératives comme par exemple Alzheimer, et tout cela en fonction de l'âge du cerveau. Il y a donc des chercheurs de l'Université de Californie du Sud qui ont mesuré le vieillissement cérébral, qui est considéré comme un marqueur fiable du risque de maladies neurodégénératives. Notre âge biologique ne serait que peu prédictif des risques pour la santé comparé à l'âge chronologique de notre cerveau. Et les auteurs de cette étude qui a été publiée dans la revue PNAS expliquent: notre apprentissage profond interprétable estime le vieillissement du cerveau avec plus de précision que toute autre approche à ce jour. Et donc les chercheurs ont analysé un peu plus de 4600 IRM cérébrales de participants à la cognition normale, certains ayant par la suite développé un déclin cognitif ou une maladie d'Alzheimer. Et l'entraînement du modèle d'intelligence artificielle a permis de créer des cartes anatomiques détaillées du cerveau en fonction de chaque IRM cérébral afin de prédire un âge. Et les chercheurs ont ensuite comparé les âges biologiques du cerveau avec les âges réels des participants à l'étude. Plus la différence entre les deux était grande, plus les scores cognitifs des participants étaient mauvais. Et le modèle développé par l'équipe peut prédire les véritables âges des participants avec une erreur moyenne de 2 ans, ce qui était environ 1 an plus précis qu'un précédent modèle qui avait été développé. Résultat, des cartes indiquent l'importance de chaque région du cerveau pour l'estimation de l'âge cérébral. Eh bien, ça révèle des différences de vieillissement neurologique entre les hommes et les femmes. Les hommes, qui présentent un risque plus élevé de troubles moteurs dus à la maladie de Parkinson, connaissent un vieillissement plus rapide du cortex moteur du cerveau, une zone responsable de la fonction motrice. Et donc cette intelligence artificielle et ce modèle qui a été mis en place, qui est plus performant que ce qui existait auparavant, qui permet donc de calculer l'âge réel du cerveau, révèle donc que le cerveau des femmes et des hommes vieillit différemment et donc du coup serait beaucoup plus, on connaîtrait un vieillissement plus rapide au niveau des hommes atteints de la maladie de Parkinson par rapport au cerveau des femmes. Voilà ce que révèle cette intelligence artificielle, ce qui montre là aussi l'implication de l'intelligence artificielle dans les travaux de recherche et développement. On voit apparaître de plus en plus l'utilisation de cette technologie parce qu'elle permet aussi de maîtriser des données beaucoup plus importantes que ne peut le faire un ordinateur classique ou que peut faire un humain, bien évidemment. Et donc, du coup, si on est en mesure de pouvoir avoir de pouvoir travailler avec beaucoup plus de données, les résultats sont un peu plus précis, un peu plus fiables, on va dire. Et on voit de plus en plus apparaître l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, dans ce domaine précis, on a réussi à avoir des informations un peu plus spécifiques. Autre chose, alors là, il n'y a aucun rapport, et je trouve que c'est un petit peu l'anecdote, mais qui me permet d'avoir une petite respiration dans cette émission. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Je vous ai dit qu'on parlerait du Titanic. Le film Titanic, Mécanique, sorti en 1997, qui fait toujours parler de lui aujourd'hui. Depuis 25 ans, le réalisateur James Cameron doit continuer en fait à justifier la fin tragique du héros du film. Certains fans ne se sont apparemment toujours pas remis de la mort de Jack, qui avait été interprété par Leonardo DiCaprio. On se souvient la fin du film, le naufrage du bateau, et Jack s'était sacrifié pour laisser une chance de survie à Rose, qui était interprétée par Kate Winslet. Eh bien, le jeune homme avait laissé sa place sur un débris flottant dans l'océan Atlantique. Il avait laissé sa place à son amour interdit. Rose sera finalement secourue. Jack, lui, ne survivra pas aux eaux glaciales. Dans une récente interview dans le Toronto Sun, James Cameron, qui était donc constamment accusé d'avoir opté délibérément pour une mauvaise fin, il a décidé de faire appel à des scientifiques pour trancher sur la réalité de son scénario. Et donc le réalisateur a demandé une véritable étude scientifique sur la probabilité de survie dans l'eau dans les conditions réelles du naufrage qui est survenu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Une équipe réunissant des experts en hypothermie a examiné des capteurs positionnés sur les corps des deux cascadeurs plongés dans de l'eau glaciale. Le réalisateur a même demandé aux cobayes de reproduire la scène du film dans laquelle Jack enlève son gilet de sauvetage et plonge sous le débris flottant pendant plusieurs minutes. Les conclusions des scientifiques sont sans appel. Il aurait été impossible que Jack puisse survivre, nous dit-on. Alors, celui qui était considéré à l'époque comme le plus grand et le plus sûr paquebot du monde a coulé en moins de 3 heures lors de sa traversée entre l'Angleterre et New York. Il ne s'est écoulé qu'une seule minute entre le moment où l'iceberg a été vu et la collision survenue au sud-ouest de Terre-Neuve. 1514 personnes sont décédées dans le naufrage du Titanic. 710 ont été sauvées. Et pour ceux qui sont tombés à l'eau, la situation météo de cette mi-avril ne pouvait laisser aucune chance. Un large anticyclone bloquait de l'air glacial le long de la côte est du Canada. Alors la température de l'air relevée en journée était de 4 degrés sous un ciel dégagé, d'un peu plus moins de 0 degré vers 22h, et la température de l'eau, elle était de moins 2,2 degrés Celsius. Alors, il semblerait que de fortes grandes marées sur les côtes du Groenland soient à l'origine de la présence de nombreux icebergs dans cette zone de l'Atlantique. L'hypothermie, c'est un refroidissement du corps qui fait descendre la température d'une personne sous 35 degrés, et lorsque la température de l'air descend à 5 degrés ou moins, eh bien, l'hypothermie peut survenir en quelques minutes chez un individu immobile. Il est également possible en quelques heures avec une température extérieure de 10 degrés. Mais plongé dans l'eau, eh bien le corps réagit différemment parce que l'eau évacue la chaleur du corps 25 fois plus vite que l'air, car elle a une plus grande densité. Et donc il suffit d'immerger un corps immobile dans une eau dont la température est inférieure à 20 degrés pour que celui-ci risque une hypothermie en moins d'une heure. Avec une eau à moins 2 degrés, eh bien, Jack, le héros du film, n'aurait effectivement pas pu tenir plus de quelques minutes sans perdre connaissance avant d'être frappé par un arrêt cardiaque et respiratoire. Y compris pour Rose, hein, sur son radeau de fortune, eh bien, la survie était difficilement envisageable. Avec des vêtements mouillés, un corps se refroidit 5 fois plus vite que s'il est sec, et sous une température de l'air de 0 degré, eh bien Rose aurait également dû tomber en hypothermie modérée ou sévère en quelques dizaines de minutes. Et donc, afin de mettre un terme au débat sur la mort de Jack, eh bien le réalisateur dévoilera la vidéo et les résultats de son expérience scientifique dans un documentaire qui sera diffusé sur National Geographic en février prochain. Donc on pourra suivre ce documentaire et enfin avoir le fin mot de l'histoire grâce à cette étude scientifique qui a donc qui confirme que il pouvait pas survivre en fait, et c'est tout. Je veux dire, voilà, à un moment il faut l'admettre. Ok, c'est triste dans le film, mais voilà, c'est l'histoire. Que voulez-vous, James Cameron avait choisi ce scénario, et bon, c'est lui, il avait le choix, il a choisi ce scénario là et bien on l'accepte, et puis c'est tout. Mais la science là encore apporte la réponse, et voilà, comme ça au moins il n'y a plus de débat. Un peu de musique sur l'antenne de Graphite. If you knew just what to do, if you knew just what to say, I will hand it over to you on a plate. If you tell me what you like, if you tell me what you don't, I can give you happy hippie.
happy time. But you don't know what to do, and you don't know what to say. If you say yes, I could stay. If you say no, I will go. Are you ever satisfied? Anyway.
If You Knew, c'était Melanie Payne sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez sur Graphite 94.9 sur la bande FM, graphite.net sur internet, tous les samedis entre 12h et 13h, l'émission Biotine pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Ce fut longtemps un rêve qui a inspiré les Américains, les Japonais, les Chinois et puis plus récemment les Européens qui ont aussi opté pour cette voie. Eh bien, il y a eu la mise en orbite qui a commencé à bord du vol Falcon 9 Transporter de SpaceX qui a décollé de Cap Canaveral le 3 janvier dernier. Il s'agit du démonstrateur de l'Institut de technologie de Californie et ce démonstrateur voyage à bord d'une plateforme satellite orbitale commerciale qu'on appelle Vigoride. Et ce démonstrateur, c'est un projet né il y a plus d'une dizaine d'années. Il a déjà été testé sur Terre. Il reste des étapes à franchir pour tester la nouvelle architecture proposée donc par cet Institut de technologie californien. Qu'importe ce qu'il va se passer, le prototype est un pas en avant. C'est ainsi que le professeur Ali Hajimiri, qui est responsable de ce projet, définit ce test de faisabilité. C'est le premier prototype de centrale solaire orbitale qui est donc arrivé dans l'espace. Il pèse à peu près 50 kilos et il y a trois parties qui ont été mises en forme. Le déploiement de l'architecture sera suivi par des caméras installées à bout de certains mâts pour qu'on puisse un petit peu voir comment ça va se mettre en place. C'est un test essentiel parce que une fois emmagasiné par la centrale, eh bien, l'énergie électrique devra être envoyé sous forme de signal micro-ondes vers un récepteur sur Terre. C'est totalement fascinant. C'est-à-dire qu'on va produire l'électricité dans l'espace et on va pouvoir l'envoyer sur Terre. Je trouve ça fascinant. Je ne sais pas. Il y a des moments où on se dit la technologie est quand même assez extraordinaire. Alors, le problème est qu'une onde se propage dans toutes les directions. Hein. On va prendre une illustration très simple. Vous jetez un caillou dans l'eau, l'onde, elle va dans toutes les directions. Elle ne va pas nécessairement vers vous si vous vouliez que l'onde revienne vers vous. Donc, il va falloir essayer de mettre en place un dispositif qui va améliorer cela, parce que quand il y a un seul émetteur, ça va. Quand il y a plusieurs émetteurs, eh bien, les interférences des différentes vagues, c'est-à-dire si vous jetez différents cailloux en même temps dans l'eau, vous allez avoir des multitudes d'ondes qui vont se croiser, et ça va permettre de focaliser le gros de l'énergie dans une direction donnée. Donc ils vont pouvoir essayer de pouvoir transmettre cette énergie au bon endroit, c'est-à-dire sur Terre, ça serait pas mal. Et il y a 32 émetteurs qui sont concernés par ce dispositif. Donc voilà. Est-ce que c'est une solution d'avenir ? On verra. Mais là, pour l'instant, c'est un prototype qui a été développé, qui a été mis en orbite. Et donc, on va voir. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ou en tout cas, s'il y a des débuts prometteurs, ça va être véritablement intéressant, bien évidemment. Et ça va être une technologie totalement inédite, innovante, et qui va ouvrir des perspectives que, pour l'instant, on ne soupçonne même pas encore. Si ça ne fonctionne pas, là, on est sur deux problématiques, enfin, on est sur deux choix. Soit on arrête définitivement, soit on essaye de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et on essaye d'améliorer le dispositif. En tout cas, ce prototype de centrale solaire orbitale est donc arrivé dans l'espace et ce sera, à mon avis, l'une des informations de cette année 2023. Hein, si on devra retenir quelques informations en 2023, je pense que celle-ci fera partie du podium parce que c'est véritablement quelque chose d'assez nouveau et d'assez prometteur également. Des petites informations que l'on trouve dans Science et Avenir, qui est une revue mensuelle vraiment intéressante pour ceux qui aiment la science. Et pour ceux qui n'aiment pas la science, ça permet quand même de pouvoir se tenir informé de l'actualité scientifique, mais sous une forme quand même, on va dire, digeste, car les articles sont vraiment adaptés pour un grand public. Les illustrations sont aussi sympathiques, les images également. Donc vous pouvez feuilleter régulièrement Science et Avenir. Et donc, il y a deux petites informations que j'ai récoltées dans le dernier numéro du mois de janvier. Il y a deux appareils à bord d'une voiture qui peuvent remplacer des capteurs fixes utilisés sur les ouvrages d'art pour la maintenance. Il y a des tests, en fait, qui ont été menés sur le fameux pont, le Golden Gate de San Francisco, et également sur un échangeur autoroutier italien. Et tout ça a montré que les données qui étaient collectées par des smartphones était exploitable pour détecter l'évolution de la structure. C'est-à-dire qu'on mettait des données qui étaient collectées en roulant. En fait, on mettait tous ces dispositifs dans des voitures qui circulaient sur le pont et on pouvait récupérer ça de façon instantanée. Et l'intérêt, c'est que ça évitait d'avoir un dispositif totalement lourd, constitué de plus de 240 capteurs qu'on devait mettre sur le pont de San Francisco, par exemple. Donc là, on utilise uniquement deux smartphones et ça permet de contrôler la structure d'un pont, ce qui est quand même assez fascinant là également au niveau de la technologie. Il y a une étude qui montre les effets d'un parasite sur le loup. C'est le parasite de la toxoplasmose qui a une influence sur le comportement des loups infectés au point de les conduire à prendre la tête des meutes. C'est ce que montre une étude qui a été publiée dans la revue Communications Biology qui a suivi pendant plus de 26 ans, presque 230 loups gris du parc national de Yellowstone sur les États-Unis. En principe, ce parasite, excusez-moi, est un parasite qui a pour hôte définitif les félins. Mais il peut se retrouver de façon accidentelle chez des hôtes intermédiaires tels que les souris, les humains et les loups. Et il peut notamment s'avérer dangereux pour le fœtus lorsque la femme enceinte est contaminée. Alors les loups gris du parc Yellowstone, eux, vivent à proximité des pumas, donc des félins, qui sont connus pour être porteurs de ce parasite et dont ils volent parfois les proies, qui sont des sources potentiel d'infection par le parasite. Et donc, d'après l'analyse comportementale, spatiale et sérologique de ces 230 loups, les scientifiques ont remarqué que ceux qui étaient infectés par le parasite sont 11 fois plus susceptibles de quitter le nid familial dès le plus jeune âge pour fonder une nouvelle meute et 46 fois plus susceptibles de devenir chef de meute. Et donc cette étude, elle est l'une des rares à montrer les effets du parasite sur le comportement des animaux sauvages. Et selon Dan McNulty, qui est biologiste à l'Université d'État de l'Utah aux États-Unis, eh bien cette étude fournit des preuves irréfutables de l'influence profonde que les agents pathogènes peuvent avoir sur l'écologie et le comportement des populations d'animaux sauvages. Il y a d'autres travaux qui avaient montré que les souris qui étaient infectées par le parasite connaissaient, elles, un surcroît de curiosité, une diminution de la peur, ce qui les conduisait plus sûrement dans la gueule des chats où le parasite peut alors se reproduire. C'est totalement fascinant, là encore, comment ce parasite peut essayer d'avoir une influence sur le comportement et donc là, de transformer des loups en chefs de meute. C'est ce que explique cette étude et c'est ce que vous pouvez lire notamment dans Science et Avenir. Allez, on continue à écouter un peu de musique.
Thank you.
Love Out of Control, c'était Julia Bardot sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, soit sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous suivent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, mais également graphite.net sur internet. Vous pouvez nous écouter en direct ou en différé parce que vous pouvez suivre, bien sûr, récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Tous les samedis dans cette émission, on fait le point sur l'actualité scientifique avec des choses parfois prometteuses, des choses parfois plutôt tragiques, des choses parfois un peu cocasses et des choses qui donnent des perspectives peut-être un petit peu plus optimistes. Concernant l'autisme, par exemple, en France, il y aurait actuellement environ 700 000 personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Un enfant sur 100 serait concerné. Alors, il y a quand même de nombreux progrès qui ont été réalisés ces dernières années, mais les enfants atteints de ce trouble sont souvent diagnostiqués trop tardivement vers l'âge de 3 ou 4 ans. Plus la prise en charge démarre précocement et plus l'enfant a de chances d'avoir une vie la plus normale possible, entre guillemets, bien sûr. En effet, les voies neuronales du langage et des fonctions sociales se développent durant la toute petite enfance. Le diagnostic de l'autisme est difficile aujourd'hui. Il ne repose pas sur une radio, un examen biologique interprétable de manière objective, parce que c'est un ensemble de symptômes, comme un faisceau d'indices, qui va permettre à une équipe pluridisciplinaire de poser le diagnostic de l'autisme. De plus, cette pathologie est très vaste. Il y a presque autant d'autisme que de patients, d'où la nécessité de développer de nouveaux outils de diagnostic précoce. Il y a une équipe qui s'est penchée sur la question et ses résultats ont été publiés dans la revue Journal of Clinical Medicine. Les auteurs ont mené une étude sur plusieurs pays, au Japon, en Suède, aux États-Unis, et ils ont mis au point un test de diagnostic précoce de l'autisme. Des échantillons de cheveux, en fait, ont été prélevés chez des bébés de 1 mois au Japon. Les mèches de cheveux ont été analysées par une technologie particulière que je vais vous éviter d'évoquer. Et chacun des enfants a ensuite bénéficié d'un dépistage à l'âge de 4 ans. Et grâce à des outils statistiques puissants, ils ont pu mettre en évidence des corrélations entre la composition des cheveux des bébés et la présence ou non de ce trouble de l'autisme à l'âge de 4 ans. Et donc cet algorithme prédictif a ensuite été testé sur d'autres échantillons provenant de Suède et des États-Unis. Il y a à peu près 500 personnes au total qui ont participé justement à ces tests. Les résultats montrent qu'il est en capacité de détecter l'autisme chez les enfants dès l'âge de 1 mois avec une sensibilité de 96%. C'est des chiffres quand même assez intéressants. Et avec une précision de 81%, c'est quand même aussi des chiffres assez intéressants. Alors, ça mérite d'être confirmé, bien évidemment, mais ces résultats sont particulièrement prometteurs. Une prise en charge extrêmement précoce de l'autisme avant l'apparition des premiers symptômes pourrait grandement améliorer la vie des patients et la vie de leurs proches, bien évidemment. Mais voilà, des scientifiques essayent donc de diagnostiquer l'autisme le plus tôt possible à l'aide de cheveux. Voilà ce qui a été annoncé il y a quelques jours. Donc ça, c'était plutôt un aspect, on va dire, optimiste et il y a des effets parfois un peu pessimistes dans certaines informations, notamment le glacier de l'Apocalypse qui est situé en Antarctique. Il a été cartographié cet été par des chercheurs. Ils font ce glacier, il recule plus vite que prévu et il ne tient aujourd'hui plus qu'à un fil. En fait, on l'appelle le glacier de l'Apocalypse parce que ce surnom en fait a été donné en raison des conséquences qu'aurait sa fonte. Mais en fait, il s'appelle réellement le glacier Thwaites, mais on l'appelle le glacier de l'Apocalypse parce qu'au moins comme ça, c'est parlant. 120 km de large, 600 km de long, sa fonte totale entraînerait une hausse du niveau des mers d'au moins 60 cm, de quoi engloutir plusieurs villes de bord de mer. Dans une publication de la revue Nature Geoscience, des chercheurs ont décidé d'en savoir plus sur l'évolution du glacier. Ils ont pour cela programmé une intelligence artificielle. Là encore, on la retrouve, l'intelligence artificielle. On l'envoie de plus en plus dans ces études. Et cette intelligence artificielle, elle est capable de suivre le développement de crevasses au niveau de sa ligne d'échouage, c'est-à-dire l'interface entre la calotte glaciaire et sa langue glaciaire. Là, c'est ce qu'on appelle un petit peu la glace qui va dépasser de la côte et qui va se jeter dans la mer. Parce que c'est à cet endroit clé entre la partie maintenue à la couche rocheuse et la partie flottante que se joue une grande partie de l'avenir du glacier. Et donc l'intelligence artificielle qui a été programmée par les chercheurs, elle a utilisé des données recueillies par des satellites durant la dernière décennie. Ces données lui ont permis de voir à travers la couche supérieure de neige et donc de voir sa surface de glace et donc de voir son évolution. Et d'après l'analyse qui a été faite, le recul de la ligne d'échouage a accéléré et ralenti deux fois au cours des 6 dernières années. Ça atteint son maximum de 6 km par an avant de ralentir à nouveau. Mais aussi, l'étude a révélé un lien étroit entre la vitesse d'écoulement de la glace et la formation des crevasses. Plus l'écoulement s'accélère, plus des crevasses se forment. Et puis inversement, la fracturation de la glace modifie la vitesse d'écoulement, ce qui implique une nécessité de revoir les modèles qui, pour l'instant, ne prennent pas ce paramètre en compte. Donc la conclusion de ce qu'ils ont pu observer, c'est que le glacier de l'Apocalypse pourrait ainsi fondre bien plus tôt que prévu. Et donc on va suivre ça avec attention, bien évidemment, parce que les répercussions peuvent être véritablement dramatiques. On continue à feuilleter l'actualité scientifique du bien, du moins bien, du souriant et du moins souriant. C'est ça la science, c'est ça la vie.
Just a mind that's sighing and playing so dull, and the after effects are
Nudge Earth, c'était Sleaford Modes sur l'antenne de Graphite. Depuis quelques semaines, on évoque régulièrement les études qui ont été menées sur le Covid-19. Comme on a un peu plus de recul maintenant, on a un petit peu plus d'informations et de plus en plus d'études apparaissent pour apporter un angle nouveau sur cette maladie et surtout sur les répercussions qu'il peut y avoir. On sait que cette pandémie de Covid-19 a engendré des perturbations importantes et un stress pour beaucoup d'entre nous, altérant même parfois notre santé mentale. Mais ces effets sur la santé cérébrale et mentale des enfants et des adolescents en plein développement neurobiologique pourraient être encore pires. L'ensemble des restrictions qui leur ont été imposées, la fermeture des écoles, les perturbations scolaires et sociales, les accès réduits aux services de santé mentale en milieu scolaire, tout cela semble avoir œuvré en ce sens. Il y a des chercheurs de l'université de Stanford qui ont voulu visualiser les changements dans la structure du cerveau d'adolescents avant la pandémie et après la fin des fermetures liées à la pandémie. Ces changements sont naturels, bien sûr, parce qu'au début de l'adolescence, les enfants connaissent une croissance accrue de l'hippocampe et de l'amygdale, des zones du cerveau qui contrôlent respectivement l'accès à certains souvenirs et aident aussi à moduler les émotions. Et donc, des recherches qui ont été menées avant la pandémie ont montré que l'exposition à l'adversité au début de la vie, la violence, la négligence, le dysfonctionnement familial, eh bien, tout cela était associé à des résultats neurodéveloppementaux inadaptés, ce qui indique une maturation ou un vieillissement accéléré du cerveau quand les adolescents étaient confrontés à des situations un peu particulières, on va dire. Par exemple, l'épaisseur des tissus du cortex qui diminue avec l'âge, eh bien, cette épaisseur était encore plus réduite chez les jeunes qui avaient des antécédents d'adversité précoce, donc étaient dans des situations un peu particulières dans leur adolescence. Jusqu'à maintenant, il s'agissait des seuls cas observés de changement d'âge du cerveau. Et ça, c'était des études qui avaient été menées avant la pandémie. Il y a donc une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue Biological Psychiatry qui suggère désormais que les facteurs de stress liés cette fois à la pandémie, eh bien, ont vieilli le cerveau des adolescents en comparaison avec celui d'adolescents avant la pandémie. Le responsable de cette étude explique « Nous avons constaté que les jeunes évalués après l'arrêt de la pandémie présentaient des problèmes de santé mentale d'internalisation plus grave, une épaisseur corticale réduite, un volume de l'hippocampe et de l'amygdale plus important et un âge cérébral plus avancé. » C'est ce qu'expliquent donc les chercheurs de cette étude qui ont comparé des scanners d'IRM de 80 adolescents avant l'épidémie et avec ceux qui ont vécu l'arrêt de la pandémie et donc après, on va dire. Les groupes d'adolescents, on les a un petit peu classés selon leur âge, leur sexe, la puberté, l'exposition, stress. Enfin bref, on a essayé d'avoir une étude la plus juste, la plus efficace possible. Et donc, on constate bien des différences. C'est-à-dire que quelque part, si on schématise et on veut dire en une seule phrase le résumé de cette étude, c'est que le stress qui a été vécu pendant cette pandémie a fait vieillir le cerveau des adolescents. C'est ça qu'on constate dans cette étude. On ne sait pas si ces changements dans le cerveau sont permanents. On ne connaît pas l'impact que cela pourrait présenter à long terme. L'adolescence est déjà une période de réorganisation rapide du cerveau et elle est déjà liée à des taux accrus de problèmes de santé mentale, de dépression, de comportement à risque. Et il se pourrait que le cerveau des enfants qui ont 16 ou 17 ans aujourd'hui ne soit pas comparable à celui de leurs homologues il y a seulement quelques années, donc avant la pandémie. Les chercheurs prévoient de continuer à suivre, bien sûr, ces adolescents pour observer les potentiels changements dans le cerveau à long terme. Ils souhaiteraient également comparer la structure cérébrale de ceux qui ont été infectés par le virus et de ceux qui ne l'ont pas été afin d'identifier toute différence. Mais voilà, cette étude suggère donc qu'il y a bien eu un impact sur le cerveau de ces adolescents. à cause du stress qui a été vécu pendant cette pandémie. On a de plus en plus d'études qui apportent un éclairage nouveau sur cette crise sanitaire et on aura de plus en plus d'études. C'est-à-dire que là, on est encore, je dirais, quelque part, c'est encore trop tôt pour avoir une vision assez large, assez définitive de ce qu'il s'est passé. Les répercussions, on ne les connaît pas encore dans certains cas. Et donc, du coup, d'autres études vont être menées et les résultats seront publiés. Et on suivra bien sûr tout cela dans cette émission, bien évidemment, pour que l'on puisse avoir une vision vraiment la plus objective possible de cette situation de la crise sanitaire. Mais comme je vous l'ai dit à l'époque, il faut du temps, la science a son temps et le temps de la science n'est pas le temps de notre société et donc du coup ça se fera au fur et à mesure mais on n'aura pas nécessairement tous les résultats et toutes les informations dès maintenant. En tout cas, on sait que, et on se doute, et la science va le confirmer, qu'il y aura eu des impacts dont on ne soupçonne pas encore l'ampleur, je pense. On suivra bien sûr cela dans cette émission. Allez, un dernier titre, une dernière musique avant de nous quitter sur l'antenne de Graphite. Get strong.
Out of it, we will open our eyes to it. You will concrete it right over. We will reach out further and further. You will drill down deeper and deeper. We will stand up steeper and steeper. You will see the dollars in it.
Strong, c'était Herbert sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci de votre attention. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Et nous parlerons bien sûr de l'actualité scientifique. Et j'ai retrouvé cet article. Ah bah, je l'avais sous les yeux il y a 10 secondes. Je vais le retrouver. Voilà. On parlera la semaine prochaine. Cet article, j'ai vu ce titre. J'ai dit, mais il faut à tout prix qu'on en parle. La sueur de Dracula va être analysée. On va analyser la sueur de Dracula. On en parle la semaine prochaine dans cette émission de Biotine. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Vous restez bien sûr fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite que vous pouvez écouter soit sur la bande FM, graphite.net. Non, sur la bande FM, c'est 94.9 et graphite.net, c'est le site internet, bien sûr, pour pouvoir nous suivre en direct ou en différé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. À samedi prochain, 12h, sinon mardi matin, 10h pour la rediffusion. Bonne journée, au revoir.